Radio Okapi.
Blaise Shindani Kambala pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, Lubero, la société civile alerte sur l'effondrement de l'élevage, pourtant l'un des piliers de l'économie locale à cause de l'insécurité. Elle accuse les groupes armés, mais aussi certains militaires incontrôlés et leurs alliés d'être à la base de ces abus. Matadi, les défenseurs des droits humains réclament justice pour Espoir Vuvu Tiama, un jeune motard décédé après une altercation avec un agent de la police des circulations routières au rond-point Kinkanda dans la ville de Matadi. Accord de Washington, Joseph Nkoy, le rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui est l'invité de ce journal, réclame l'application des engagements sur les retraits des troupes rwandaises. Encore une fois, bonjour à tous. Au Nord Kivu, la société civile de Lubero affirme que l'élevage, l'un des piliers de l'économie nationale, est en train de s'effondrer à cause des conflits armés. Dans une déclaration publiée ce mercredi, elle accuse les groupes armés, mais aussi certains militaires incontrôlés et leurs alliés, d'être impliqués dans des pillages de bétail et l'imposition des taxes illégales qui privent de nombreux ménages à leur principale source de revenus. Elle appelle les gouvernement et les Nations Unies à intervenir. Les détails avec Martial Papimukiba.
Pillage de bétail, taxes illégales, fermes abandonnées. C'est le constat dressé par la société civile de Lubero après des consultations avec des éleveurs. Elle met en cause les ADF, l'AFC-M23, mais aussi certains militaires FRDC indisciplinés et des éléments Wazalendo qu'elle accuse d'être impliqués dans ces exactions. Son président Muhindo Tafuteni explique.
Les éleveurs ont perdu beaucoup de bêtes pillées par l'AFC-M23 dans les zones qu'ils contrôlent. Les ADF et par quelques éléments indisciplinés des forces armées et par certains de leurs alliés, les Wazalendo, qui ont même institué des taxes illégales payées par les éleveurs. Les fermes demeurent vides.
Au-delà des pertes économiques, la société civile alerte sur les conséquences de cette situation pour la sécurité alimentaire dans ces territoires à vocation agropastorale. Elle demande au gouvernement congolais de rétablir la sécurité, de soutenir les éleveurs et de relancer les secteurs. Elle appelle également les Nations Unies à accompagner cette relance. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ces temps en Ituri, les mécanismes traditionnels de résolution des conflits continuent d'alimenter la réflexion sur la recherche de la paix. Au cours d'un entretien exclusif accordé à Radio Okapi dans le cadre de l'émission Identité culturelle de ce dimanche 12 juillet, deux chefs coutumiers du territoire des Mahagi sont revenus sur les pratiques ancestrales de réconciliation et les leçons qu'elles peuvent encore inspirer aujourd'hui. Les points avec Jean-Claude Lokidile.
Pour le chef de la chefferie de Pandoro, Arnold Lokwa, la réconciliation traditionnelle reposait d'abord sur l'écoute des parties avant toute décision. Une fois un accord trouvé, des rites symboliques venaient sceller le retour de la paix.
Et nous ne devons pas demeurer éternellement sur des conflits et on en est vraiment fatigué. Je crois que nous devons prôner le recours à l'authenticité pour arriver à résoudre nos problèmes et d'une façon pacifique, sous l'arbre et à palabre.
Mais selon les autorités coutumières, ces mécanismes sont aujourd'hui fragilisés par la politisation des conflits, la circulation des armes et l'affaiblissement du rôle des chefs traditionnels. Le chef de chefferie de Walendo Guati, Feti Pega, estime que la paix durable passe aussi par le désarmement et le retour aux valeurs de pardon et de tolérance.
Nous sommes un peuple, nous devons être très unis. Le pardon et puis la tolérance. Donc les armes doivent être déposées et nous devons continuer à vivre comme nous étions auparavant. Nous ne devons pas laisser que la politique vienne nous embrouiller inutilement. Nous devons être unis comme un seul peuple et puis travailler ensemble comme auparavant.
Au-delà des différences communautaires, les deux chefs coutumiers lancent le même appel, redonner toute sa place au dialogue afin que les traditions de réconciliation contribuent de nouveau à bâtir une paix durable en Ituri. Bounia, Jean-Claude Louki, Dile, Radio Okapi.
De passage à Kananga, dans la province du Kasaï central, le jeune cycliste Miguel Masai Sai porte un message de paix. Ce mercredi, il a sensibilisé la population à travers une caravane motorisée. En route vers le Maroc, il appelle à l'unité et à la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Arrivé dans la ville dans la nuit de mardi, Il a bénéficié du soutien de nombreux jeunes et des autorités provinciales. Reportage d'André Katendenga à Moulomé.
Un vélo, un drapeau congolais et un message de paix, le passage de Miguel Masaïsaï à Kananga n'est pas passé inaperçu. En route vers le Maroc, le jeune cycliste a reçu un accueil chaleureux. Ce mercredi, accompagné de nombreux jeunes, il a parcouru plusieurs avenues de la ville en caravane motorisée. Le cortège s'est terminé à la place de l'Indépendance. Partout, le même message. Promouvoir l'unité, la paix et la cohésion en République démocratique du Congo.
Le message que j'ai à la jeunesse centre-Kassaël, c'est d'être unis pour la paix.
L'initiative a également été saluée par les autorités provinciales. Reçue par le ministre provincial de la jeunesse, Miguel Masaïsaï a été félicité pour son engagement. Le ministre honoré Jou Kayou Afanganaï a appelé les jeunes du Kassaï central à s'inspirer de cet exemple. Selon lui, la jeunesse a un rôle essentiel à jouer dans la consolidation de la paix et le développement de la province comme du pays.
À notre jeunesse d'emboîter les pas, de prêcher aussi la paix, initier quelques activités, même si ce n'est pas pour pédaler le vélo.
Ce vendredi, Miguel Masaïsaï quitte Kananga pour Tshikapa. Son voyage à vélo pour la paix se poursuit en direction du Maroc. Kananga, André Katendenga la Moulomé, Radio Kapi.
La synergie des défenseurs des droits humains s'est dit préoccupée par le manque d'avancée dans les dossiers d'Espoir Vuvutiama, un jeune motard décédé après une altercation avec un agent de la police des circulations routières PCR au rond-point Kinkanda dans la ville de Matadi. Selon l'organisation, les faits se sont produits le 16 juin 2026 lors d'un contrôle routier. Le jeune homme serait tombé sur la chaussée et aurait été grièvement blessé au passage d'un véhicule de gros tonnage. Admis à l'hôpital de Kinkanda, Espoir Vuvutiama succombera de ses blessures une semaine plus tard. La synergie des défenseurs des droits humains dénonce les silences des autorités judiciaires et demande que justice soit faite dans ce dossier qui continue de susciter l'émotion au sein de la population. On écoute Colino Mbala, coordonnateur provincial de la synergie des défenseurs des droits humains au Congo central. Il s'exprime au micro d'Élise Kavira.
Nous sommes là pour pouvoir demander une justice à l'endroit de l'auteur qui a eu à provoquer la mort précipitamment de notre compatriote Espoir à cause de l'inconscience professionnelle des agents de la police de circulation routière, un comportement que nous déplorons à tout moment. Bien sûr que les autorités ont eu à assister pour l'organisation de ces obsèques, mais après l'enterrement, il faudra que la justice soit faite et que le bourreau, l'auteur, ce policier inconscient de sa profession, qu'il soit jugé et condamné, qu'il assume ses responsabilités.
Au Kwilu, la société civile dénonce des détournements présumés de matériaux destinés à la réhabilitation de la route Kanzombi à Kikwit. Réunis au sein du cadre des concertations de la société civile du Kwilu, ce regroupement accuse certains chauffeurs et agents de la société DK Service de vendre à la population du carburant et des sacs de ciment affectés à ces chantiers routiers. Selon son président Placide Mokwa, ces pratiques risquent non seulement de ralentir l'exécution des travaux, mais aussi de causer un important préjudice à l'État et aux communautés bénéficiaires de cette infrastructure. La société civile appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête afin d'identifier les responsables et de les traduire en justice. Placide Mokwa est au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundouville.
Nous avons reçu aujourd'hui monsieur le ministre du Commerce extérieur pour parler. Il est venu d'abord nous parler des différents accords qu'il a signé, qui permettent à ce que les opérateurs économiques de la FEC.
Nous nous excusons, on est trop vite allé en besogne. On rentrait à Kinshasa face à l'avancée des érosions. Des habitants prennent les devants pour protéger leur quartier. À Camping, dans le quartier Kingu, commune de Selembao, des riverains se mobilisent pour tenter de stopper la progression d'un ravin qui menace habitations et infrastructures depuis plusieurs années. Profitant de la saison sèche, considérée comme une période propice aux travaux de prévention, ils ont entrepris des actions de remblayage afin de limiter des dégâts avant le retour des pluies. Faute d'une prise en charge par le pouvoir public, certains habitants disent avoir conclu des arrangements avec des propriétaires des parcelles situées à Binza-Pigeon dans la commune voisine de Ngalema pour récupérer les immondices destinées à combler les ravins. Une initiative de fortune dans une zone régulièrement exposée aux risques d'érosion et d'éboulement. Reportage et la Chembalou.
Au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, les ravins continuent de progresser. Pour l'instant, la saison sèche laisse un répit aux habitants. Un répit qu'ils mettent à profit pour tenter de protéger leur maison.
Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Heureusement que nous sommes en saison sèche. Nous essayons de faire quelque chose pour ralentir l'érosion. Nous nous sommes organisés pour acheter des sacs afin de limiter les dégâts. Nous demandons vraiment à l'État de nous venir en aide.
Sur le terrain, l'inquiétude reste palpable. Le riverain estime que leurs initiatives ne pourront pas résister longtemps aux prochaines pluies. Il nous faut une intervention avant les retours de la saison des pluies. Voyez-vous-même dans quel état se trouvent les maisons environnantes. Pour cet expert en environnement, les actions menées par les habitants permettent tout au plus de ralentir l'avancée du ravin, sans résoudre durablement les problèmes.
Dans un milieu accidenté comme celui-ci, la meilleure solution reste la construction des caniveaux. Quant au remblayage du ravin, avec des déchets, c'est n'est qu'une mesure temporaire. Les immondices ne permettent pas de lutter durablement contre l'érosion.
À Kingu, les temps pressent alors que la saison des pluies approche. Les habitants espèrent voir des travaux engagés rapidement pour stopper l'avancée du ravin et éviter que les nouvelles maisons ne soient emportées.
Restons à Kinshasa où un geste de solidarité a été posé en faveur des femmes déplacées installées dans la commune de Lancélé. Plus de 600 femmes et jeunes filles originaires du site de Pakajuma et actuellement hébergées à Kinkole ont reçu ce jeudi 16 juillet des kits de dignité. Cette assistance a été fournie par l'organisation Solidarité des femmes sur le fleuve Congo Sofreco avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. L'initiative vise à répondre aux besoins essentiels de ces femmes et de leurs dépendants confrontés à des conditions de vie particulièrement difficiles depuis leur installation sur ces sites d'accueil. Ronéline Tibonera nous en dit plus.
Sourire aux lèvres, Amina, 23 ans, fait partie des bénéficiaires. Depuis quelques mois, elle dit vivre dans des conditions précaires allant jusqu'à manquer des sous-vêtements. Les kits reçus, composés notamment d'un seau, des savons, d'un pagne et d'autres éléments essentiels, représentent pour elle un véritable soulagement face aux risques quotidiens.
Que Dieu vous bénisse pour ces gestes. Cependant ici, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Si possible, nous aimerions également bénéficier d'un accès à l'eau potable, des ustensiles de cuisine et même d'une aide financière, ne serait-ce qu'un peu, pour soutenir nos ménages car nous avons beaucoup de mal à nous nourrir.
Pour Becky Mboissé, responsable de Sofleco, au-delà de cette assistance, les femmes vivant sur ces sites ont également été sensibilisées aux violences basées sur le genre afin de les protéger des risques futurs.
300 femmes ont été sensibilisées, dont 100 femmes allaitantes, 100 femmes enceintes et 100 jeunes filles. Mais quant aux distributions des kits, on a essayé d'élargir étant donné que les besoins étaient énormes.
Depuis février 2026, plus de 6000 ménages venus de Pakajuma vivent dans les sites de transit de Kinkole. Plusieurs occupants dénoncent des conditions de vie jugées très précaires, notamment le manque de latrines salubres et d'autres infrastructures essentielles.
Faire de la culture un vecteur de paix, de cohésion nationale et de développement. C'est l'ambition affichée par les organisateurs de la 26e édition du Festival National de Gungu, le FESNAG, au cours d'une conférence de presse tenue le 16 juillet au Centre culturel pour les pays de l'Afrique centrale. Ils ont dévoilé les grandes lignes de cet événement culturel majeur prévu du 21 au 27 juillet à Gungu et à Kikwit dans la province du Kwilu. Créé en 1925, le Festival National de Gungu entend, à travers cette nouvelle édition, promouvoir et préserver le patrimoine culturel congolais en mettant en valeur les danses, les rites, la musique et les traditions qui fondent l'identité nationale. Le coordonnateur du festival, Célestin Faso Mushigo, revient sur les thèmes retenus ainsi que sur les principaux temps forts de cette édition. Il est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Le thème retenu pour cette 26e édition est « Plaidoyer des cultures pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo ». Ce thème traduit notre conviction que la culture constitue un puissant levier de cohésion nationale, de dialogue entre les communautés et le développement durable. Près de 1000 festivaliers sont attendus. Ils représenteront les institutions publiques, les autorités traditionnelles, les artistes, les scientifiques, les opérateurs économiques, les chefs spirituels, les acteurs culturels, ainsi que plusieurs délégations nationales et internationales. Nous attendons également près de 20 000 spectateurs par jour dans un stade ouvert, témoignant de l'engouement populaire que suscite le Festival National de Goum. Le programme comprendra des productions de danse traditionnelles, des prestations musicales, des démonstrations de rites et rituels traditionnels, des séances de palabres africaines par les autorités traditionnelles, des balades touristiques ainsi qu'un colloque scientifique.
Actualité internationale.
L'ancien président sénégalais Macky Sall est attendu ce vendredi 17 juillet à Dakar pour une visite éclair. Il va tenter d'obtenir le soutien de son successeur Bassirou Diomaye Faye et de son pays à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. C'est la première fois que Macky Sall revient au Sénégal depuis qu'il a quitté le pouvoir en avril 2024. Sa fin de mandat fut marquée par la répression des manifestations politiques et la tentative de reporter la présidentielle. Sa visite fait débat au sein de la société civile.
L'invité.
Notre invité de ce jour est le député national Joseph Nkoy, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. L'élu de Katakokombe dans la province de Sankourou réagit à l'expiration de l'ultimatum fixé à la mi-juillet pour le retrait des troupes rwandaises à l'est de la RDC, un engagement qui n'a toujours pas été respecté. Pour Joseph Nkoy, les États-Unis, garants de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, doivent désormais prendre leurs responsabilités et veiller à l'application effective des engagements souscrits par les partis. Joseph Nkoy est au micro de Grace Amzati Masanzi.
Joseph Nkoy, bonjour.
Bonjour, monsieur Grace Amzati.
L'échéance de la mi-juillet évoquée par les États-Unis est passée sans retrait visible des troupes rwandaises. Comment analysez-vous cette situation ?
À mon avis, c'est encore une fois de plus la manifestation par le Rwanda de son comportement de mépris vis-à-vis de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique et la manifestation aussi de sa détermination à pouvoir semer la désolation en République démocratique du Congo, la déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo et même la déstabilisation de la sous-région. Et je pense que c'est le moment pour les États-Unis d'Amérique de tirer toutes les conséquences parce que nous ne pouvons pas accepter qu'à l'heure actuelle, au 21e siècle, qu'il y ait un dirigeant africain qui se comporte en un tyran au mépris de toutes les instances internationales, de tous les accords bilatéraux et multilatéraux.
Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui empêchent l'application effective de l'accord de paix signé à Washington ?
Il se dégage manifestement les obstacles ci-après. D'abord, la mauvaise foi dont a fait preuve le Rwanda depuis le début du processus qui a abouti à la signature de l'accord de paix entre lui et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ensuite, ses velléités expansionnistes sur les territoires congolais, comme l'atteste, comme l'éprouve les rapports des experts des Nations Unies. Aussi, on peut noter son objectif principal qui consiste à soustraire à tout prix, dans les conditions les plus inhumaines, les richesses de la République démocratique du Congo qui lui permettent d'assurer la stabilité de son système économique.
L'accord ne prévoit pas des sanctions automatiques en cas de non-respect des engagements. Cette absence ne risque-t-elle pas d'affaiblir sa mise en œuvre ?
Comme vous le savez, la vie internationale repose essentiellement sur la bonne foi de ses acteurs. Et notre pays a signé cet accord avec le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ainsi, les États-Unis d'Amérique se trouvent être au centre de la mise en œuvre de cet accord. Les États-Unis sont justement ceux qui ont reçu la responsabilité internationale pour tout mettre en œuvre afin que cet accord signé entre notre pays et le Rwanda soit appliqué de manière effective. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas voir leur honneur être battu en brèche par les comportements arrogants du Rwanda.
Et face à la poursuite des combats dans l'Est, quelles mesures la RDC devrait-elle privilégier aujourd'hui pour obtenir le retrait des forces rwandaises tout en accélérant le retour de la paix ?
À ce niveau, je pense qu'il y a lieu de pouvoir rappeler des textes majeurs votés par les conseils de sécurité des Nations Unies sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la résolution 2773 qui exige le retrait de troupes rwandaises sur les territoires congolais. Il s'agit aussi de la résolution 2808 qui a prorogé le mandat de la MONUSCO. Et donc, il revient au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre toutes les mesures coercitives justement pour faire appliquer la résolution ou les résolutions 2773 et 2808. Pour le reste, la République démocratique du Congo s'en remet à la volonté et détermination des États-Unis d'Amérique à contribuer pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo sans justement avoir l'idée de se soustraire de ses obligations les plus régaliennes. Notre gouvernement, à ce qu'il y revient, est en train de tout mettre en œuvre pour mettre en condition les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale.
Joseph Nkoyi, je vous remercie.
C'est bien moi qui vous remercie.
C'était donc notre invité Joseph Nkoyi, le rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui s'entretenait avec Grace Hamzati. Et c'est ce qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Claude Tsala Mwanamakengontualou. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.